autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver autour de notre première table ronde de l'année avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique, une table ronde virtuelle. Évidemment, distanciation sanitaire oblige, c'est donc chacun à leur tour que Mathieu Novak pour Science et Avenir, Cécile Lestienne pour Cerveau et Psycho, Philippe Hénarejos pour Ciel et Espace et Thomas Cavaillé-Foll pour Science et Vie interviendront en direct pour moitié, en présentiel, en studio et puis pour moitié en ligne depuis leur rédaction. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse ce mois-ci dans leurs magazines respectifs, dont vous le savez, nous avons quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditeurs. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous les demander hein, par mail ou sur notre page Facebook. Alors, histoire de titiller votre curiosité, nous découvrirons que la Mésopotamie n'est pas le seul berceau de l'écriture. Le déchiffrement en Iran d'une écriture datant de plus de 4000 ans élargit le tableau et révolutionne nos connaissances. Nous partirons ensuite faire un tour dans la Voie lactée pour tenter d'en dessiner ses contours en nous arrêtant sur la Lune, carrément dans l'orbite du premier télescope lunaire piloté par un astronome chinois. Sidéral et sidérant, nous nous intéresserons aussi aux recherches sur le cannabis thérapeutique sans même avoir besoin de fumer la moquette. Nous apprendrons aussi comment nous sommes plus bactériens qu'humains et comment ces milliards de bactéries avec lesquelles nous cohabitons influencent nos humeurs et nos émotions. Tout un programme à partager ensemble autour de la question comment la science infuse et se diffuse en 2021 sur RFI. Et en toute conscience.
Je vous dis science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Science, sans conscience, n'est que ruines et larmes. Devant l'escalade de la violence, l'homme découvre son impuissance. Appelle à l'aide, le maître du temps. C'est un SOS si tu m'entends.
Alpha Blondie et ses choristes citant Rabelais, ça nous va pour bien commencer 2021 en science et en conscience donc. Avec vous Mathieu Novak, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous et bonne année.
Bonne année, ravi de vous retrouver ici en vrai, en présentiel, ça fait du bien de donner un coup de coude et pouvoir se parler. Alors avant de feuilleter votre numéro de janvier de Science et Avenir, dans lequel franchement vous y êtes allé assez fort, on va y revenir, entre le Big Freeze, le Big Slurp, on a le choix en matière de scénario de fin des temps, de fin de l'univers, mais enfin on a le temps. C'est pas pour tout de suite. On va aussi remonter le temps avec vous en Iran, hein, sur les traces des premières écritures de l'humanité. Mais d'abord, Mathieu, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous espérez pour 2021, scientifiquement 100 ans ? Moi, je dis 2021, année du vaccin, année du lien à reconstruire ensemble, c'est ça, hein, en gros ?
Oui, année du vaccin, ça c'est sûr. C'est incroyable tout ce qui s'est passé en un an, aussi bien humainement, socialement que scientifiquement, parce que si on avait dit il y a 6 mois, 8 mois qu'on aurait un vaccin aujourd'hui disponible, qui marche, ça serait... Peu de gens l'auraient cru. Alors bon, aujourd'hui, le deuxième vaccin ARN messager a été validé par les autorités sanitaires européennes. Impossible de dire comment ça va se passer. Moi, tout ce que je nous souhaite, c'est qu'on en sorte, parce qu'il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer par ailleurs dans ce monde. Et notamment, si on arrive à en sortir, on va avoir ce super nouveau musée au Caire, là, sur le plateau de Gizeh, pas loin du Caire.
Hein,
le grand musée de l'Égypte, le plus grand musée pour l'égyptologie. Donc j'espère qu'on va sortir de ce coronavirus.
Pour pouvoir voyager, c'est ça, dans le temps et dans l'espace.
Les merveilles du monde, voilà.
Et vous nous entraînez aussi plus loin dans cette année 2021, enfin je veux dire plus loin, pas devant, mais plus loin derrière, c'est
ouais, ça ? Oui, il y a toujours des choses qu'on attend. Alors il y a un os, un fémur qui est caché depuis des années dans un tiroir, c'est le fémur de Toumaï. Alors Toumaï, vous vous souvenez, c'est cette hominidée dont on a parlé il y a une vingtaine d'années, l'hominidée du Tchad, qui serait vieux de 7 millions d'années. Et ce fémur, dont on n'a toujours pas eu l'analyse scientifique, cette analyse scientifique pourrait sortir cette année, pourrait nous dire si oui ou non il était vraiment bipède et donc pourrait être un lointain ancêtre.
Est-ce que Toumaï est notre plus lointain ancêtre ? On risque de le savoir cette année.
Disons qu'il y a eu une première publication, mais par des personnes qui ne l'ont eu en main que quelques secondes, ce fémur cette année, qui va plutôt dans le sens qu'il n'était pas bipède. Problème. Ah. Et alors, on attend la nouvelle publication scientifique. J'espère cette année savoir si on confirme sa bipédie.
Est-ce que Toumaï était bipède ou pas? En tout cas, dans ce numéro de Science et Avenir, donc de janvier, Mathieu Novak, bah, vous remontez, peut-être pas aux origines de Toumaï, mais vous remontez aux origines, au berceau de l'écriture.
Oui.
Et on découvre, hein, c'est quand même une révolution, hein, que c'est plus seulement la Mésopotamie qui est le berceau de l'écriture, mais l'Iran, il y a un archéologue français en plus, vient de déchiffrer, hein, en pensant à Champollion, tout de même, une écriture vieille de plus de 4000 ans.
Ouais, c'est ça. En fait, pour situer les choses, aujourd'hui, on pensait qu'en gros, la plus ancienne écriture connue, elle était datée de 3300 avant Jésus-Christ, et on l'avait trouvée en Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak aujourd'hui, sur des tablettes cunéiformes. Donc on pensait que c'était la première écriture, et que finalement, après, elle avait rayonné et donné naissance à d'autres écritures. Et là, cette découverte, donc, qui a été faite par François Dessay, qui n'est pas encore tout à fait officielle, hein. Il y a eu une conférence de spécialistes à Padoue à la fin de l'année dernière, mais il n'y a pas encore d'annonce officielle. Donc nous, on est très contents à Science et Avenir, on a réussi à avoir quelques infos secrètes, et on attend la publication l'année prochaine. Et donc, il y aurait une écriture, il y a une écriture qu'on a réussi à déchiffrer, donc c'est le travail de François Dessay, qui est finalement un Français et qui enseigne à Téhéran. Et il a réussi, après une quinzaine d'années de travail, et là, en profitant un peu du confinement, à craquer le code de cette écriture.
C'est ces écritures cunéiformes sur des tablettes.
Alors, c'est pas du cunéiforme cette fois-ci, c'est une écriture qui est purement phonétique, c'est-à-dire avec des signes, dont certains signes désignent des syllabes, d'autres des consonnes et des voyelles. Le cunéiforme, on a un mélange de phonogramme et logogramme, c'est-à-dire de symboles qui traduisent des sons et des symboles qui traduisent un sens. Donc là, on est sur une écriture purement phonétique. Cette écriture, ça s'appelle le Élamite linéaire. En fait, c'est la langue des Élamites. Les Élamites, c'est le royaume d'Élam. C'est eux qui habitaient en Iran entre la fin du 3e et le début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, donc il y a très 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 longtemps. Mais donc, cette écriture, si on la date, elle serait donc contemporaine du cunéiforme. Enfin, c'est plutôt le proto-élamite qui serait contemporain du proto-cunéiforme, et donc les deux langues auraient évolué de façon parallèle.
Ce qui est très étonnant, ce qui montre qu'au fond, il y aurait quoi, eu deux inventions, avec tous les guillemets possibles de l'écriture,
absolument,
dans deux endroits du globe en même temps, voilà. Dans l'actuel Iran, l'actuel Irak.
Voilà, étonnant, exactement. Hein, tout de même. Donc c'est la même région du monde, mais c'est quand même deux endroits qui sont vraiment séparés, et les écritures n'ont rien à voir. L'élamite, là, qu'on vient de craquer, c'est rattaché à aucune autre langue. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que pour le moment, ces peuples-là, les élamites, on ne les connaissait que par les écritures des Mésopotamiens. Alors justement, là, on va pouvoir les découvrir ce peuple à travers leur propre écriture. Et donc déjà, on peut voir que Élam, c'était un nom donné par les Mésopotamiens, et que ici, leur territoire à eux, dans leur langue, dans cette écriture, s'appelait plutôt le Atamti.
Extraordinaire, ça ouvre en fait plein de pistes sur les inventions en général. Est-ce qu'on invente quelque chose, est-ce que ça se transmet ensuite, ou est-ce qu'on invente en même temps de par le monde? Comment est-ce qu'on a pu écrire, et puis comment est-ce que cet archéologue français a réussi à craquer, à déchiffrer? On se dit, on est un peu dans un film d'Indiana Jones, comment il a pu déchiffrer sur une tablette des signes et puis comprendre que c'était une
langue. Il est parti de vases en argent qui avaient été découverts dans des tombes, c'est des vases qui sont maintenant conservés à Londres. Et il a vu qu'il y avait des symboles qui se répétaient, en fait c'était des inscriptions royales. Alors on se demande bien sûr qu'est-ce qui a écrit, parce qu'on n'en a pas parlé, qu'est-ce qui a écrit. En fait, ce sont des inscriptions royales, donc une écriture qui se lit de droite à gauche et de haut en bas, et en gros, les inscriptions, c'était « Je suis un tel, grand roi de tel endroit, fils de un tel, et j'ai fait cet objet pour un tel ». Donc c'est des choses qui reviennent, et un peu comme Champollion, dont on va fêter l'anniversaire, les 200 ans l'année prochaine, il voit des choses qui reviennent, et en les mettant en correspondance avec ce qu'on sait de la situation historique, il a réussi à trouver le code.
Extraordinaire, écrit, gravé, il y a plus de 4000 ans. Pour en savoir plus sur ces inscriptions, donc sur les plus vieux écrits de l'humanité et leur déchiffrement, c'est à lire dans Science et Avenir. Donc, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, nous avons quelques exemplaires à vous offrir. Vous le savez, arrêtons-nous maintenant, Mathieu Novak, sur le dossier, la une de ce numéro de janvier de Science et Avenir, consacré carrément à la fin des temps, à la fin de l'univers, avec de nombreux scénarios possibles. Bon, on a le temps, hein, vous nous rassurez tout de suite, c'est pas pour nous finalement.
On parle beaucoup du Covid, donc on s'est dit, allez, parlons de la fin du monde. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle parce que la fin du monde, ce n'est pas pour tout de suite. Mais alors, pas du tout pour tout de suite.
C'est pour dans combien de temps? Pour dans 10 puissances
10 puissances, 1100 années. Alors déjà, si la Terre, elle disparaît un jour, ça sera dans à peu près 5 milliards d'années. Mm-hmm. Donc 1 milliard, c'est 10 puissance 9.
Hein. D'accord.
Donc c'est un 10 avec 9 zéros derrière. Et là, je vous parle de 10 puissance 1100.
Wow.
Donc, on aura le temps de partir de la Terre, d'aller se trouver un autre paradis avant d'assister à tout ça.
Donc, on peut en parler, mais alors on pourra assister. Alors, il y a plein de scénarios possibles avec des noms insensés. Il y a le Big Freeze, le Big Crunch, le Big Slurp. Celui-là, il me plaît bien, le Big Slurp. Et le Big Rip.
Alors, le Big Freeze, c'est le plus probable aujourd'hui. C'est-à-dire que l'univers.
Freeze, gelé, congelé.
Freeze, voilà, c'est ça. Il va refroidir dans 10 puissance 100 ans, donc 10 avec 100 ans, 0 derrière. Jusqu'au zéro absolu. Et là, il y a un Matt Kaplan qui travaille à l'Université d'État d'Illinois qui essaie de décrire ce qui va se passer. Il va se former des étoiles. En fait, c'est des naines blanches qui vont geler, qui vont former des naines noires. Des étoiles qui sont jusqu'à présent inconnues parce qu'elles n'ont pas eu le temps de se former. Et à un moment, elles vont finir par, avec des réactions de fusion, par exploser. Et tout va se figer petit à petit. Donc ça va être dans très très longtemps. Et finalement, l'univers va se geler et tout va s'arrêter. Mais comme vous dites, il y a d'autres scénarios qui sont
marrants. Le Big Slurp,
c'est au pied de la lettre, il faut le prendre. Slurp, c'est... Voilà, c'est ce bruit pas très...
Qu'est-ce qui va se passer dans 10 milliards puissance, je ne sais pas combien d'années?
L'idée, c'est que s'il y a une collision entre notre région de l'univers et une autre qui est en inflation, la nôtre va être littéralement engloutie,
avalée,
et les lois de la physique vont complètement changer.
Oh, un gigantesque slurp.
Voilà, un slurp. Alors, il y a un autre scénario qui s'appelle le Big Rip. Alors là, l'idée, c'est que si la force d'expansion de l'univers continue à augmenter, tout va se dilater jusqu'aux atomes, tout va finir éparpillé, comme on dit, façon puzzle.
En attendant...
Mais il y a quand même un dernier scénario.
Oui, allez-y, c'est
le Big Bounce.
Le Big Bounce.
Le gros mot, c'est la théorie de la gravitation quantique
à boucle.
Et l'idée, c'est que notre univers...
De notre ami physicien Carlo Rovelli, si je ne m'abuse.
Exactement.
Oui.
Et donc l'idée, c'est que notre univers serait peut-être issu de la contraction d'un univers précédent et que donc notre univers actuel serait peut-être aussi maintenant l'ancêtre du suivant.
Oh, génial, ça c'est
un
pas mal, moi ça me plaît.
Oh, voilà.
Mais c'est celui-là qui me plaît. Alors en attendant l'éternel recommencement ou le feu d'artifice final de l'univers dans 10 milliards puissance, je ne sais pas combien de milliers d'années, autrement dit dans une
ça
éternité,
dépasse l'entendement, oui.
C'est ça. On aura le temps de lire ce dossier qui fait la une de Science et Avenir de ce mois de janvier. Merci Mathieu Novak, en attendant donc la fin de l'univers, on va se projeter dans notre Voie lactée pour tenter d'en dessiner les contours avec Philippe Hénarejos de Ciel et Espace que l'on retrouve juste après 16 levées de soleil, 13 exactement, titre de l'album du jazzman Guillaume Perret, qui a invité Lino pour ce morceau méditatif sur notre condition humaine dans la paume de Gulliver sur RFI.
Le monde tourne, on finit poussière, 7 milliards sous le ciel et j'attends mon tour. Je vis, je crache, je crache les plaques qu'on nous sert, et je le rappe au milieu des flammes qui m'entourent. Fini poussière, 7 milliards sous le ciel et j'attends mon tour. Je vis, je crache, je crache les plats qu'on nous sert, et je le rappe au milieu des flammes qui m'entourent. 16 levées de soleil et 16 couchées. On dort pas loin d'où le feu sommeille. On tend les bras, le ciel se laisse toucher. Loin des sommets, combien d'étés, pourtant d'hiver. À vivre, à consommer, exister dans la paume de Gulliver. Au funérailles des cœurs, je suis comme au chevet d'une étoile mourante. Comme un breaker, le monde tourne sur la tête, le sang pisse comme l'eau courante. On s'est cru divin, simple poussière à l'échelle de l'univers. À vivre et à se consumer dans la paume de Gulliver. Dans une civière, la paix fait son nid et Lucifer rit aux anges. Dans les écrans défilent les faits divers. On a perdu aux chances, vu que les balles ont la mémoire courte. Les armes se répètent comme l'histoire. Tout va vers un nouveau Big Bang, un autre jour, une autre victoire. Le monde tourne, on finit poussière. 7 milliards sous le ciel et j'attends mon tour. Je vis, je crache, je recrache les plats qu'on nous sert. Si je le rappe au milieu des flammes qui m'entourent. Le monde tourne, on finit poussière. 7 milliards sous le ciel et j'attends mon tour. Je vis, je crache les plats qu'on nous sert. Ma constellation. Et je le rappe au milieu des flammes qui m'entourent. 8e planète, une fenêtre sur le monde.
7 milliards sous le ciel, et des SOS en surnombre. C'est cette nuit-là que je t'écris, seul à regarder l'immensité, loin des cris de la ville et de ses cités, de ses étoiles sans surnom. Petit prince rêve d'ailleurs trop près des hommes et de leur nombril. À l'inverse, une constellation, c'est par l'argent qu'on brille ici. Tant d'appellations, pour un seul dieu, je rêve d'habiter. Loin du réel, assis sur la lune, où règne l'absence de gravité. Ma rue s'allume et l'aube à ma table est venue s'inviter. Aucun salut dans les salles blancs foireux, dit carreau de Prométhée. Mais qu'est-ce qu'un homme à l'échelle d'une planète, une planète à l'échelle de l'univers? Rien que poussière dans la paume de Gulliver.
Lino dans la paume de Gulliver sur RFI et dans l'album de Guillaume Perret, 16 levées de soleil, rien que ça pour vous accueillir, Philippe Hénarejos de Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse en 2021, une année qui s'annonce d'ores et déjà, comment dire, très spatiale. Alors quels événements, il y en a plein, hein, quelles dates à ne pas manquer cette année dans le ciel et dans l'espace, Philippe Hénarejos?
Oh, ben ça va commencer très très vite. Hein. Vous savez, en février, là, il y a la sonde Perseverance qui va se poser sur Mars. Vous avez la sonde chinoise Tianwen 1 qui va se poser également sur Mars. Ces deux sondes-là sont des rovers qui vont aller explorer des parties différentes de la planète Mars. Mm-hmm. Donc on attend beaucoup de choses. Évidemment, Perseverance est un rover très sophistiqué. Donc on va vivre les 7 minutes de terreur qui consistent à se poser sur Mars, c'est très compliqué avec attention. C'est le 18 février.
Là, c'est vraiment le moment de tous les dangers, le moment de l'amarcissage.
Oui, oui, oui. Ouais, ça a été réussi une fois avec Curiosity. Mmh. Donc, on ne sait pas si c'est maîtrisé ou si on a eu un peu de chance la dernière fois. Donc, on va voir. C'est quand même très, très compliqué. Perseverance, c'est le plus gros robot qu'on peut envoyer sur Mars. Il fait 1,5 tonnes. La manœuvre est extrêmement compliquée. Et puis, côté chinois, c'est quand même extraordinaire parce que c'est la première sonde chinoise envoyée vers Mars. Et d'entrée de jeu, elle envoie un orbiteur, un atterrisseur avec un rover. Donc ça fait beaucoup, alors qu'on sait que c'est très compliqué d'y arriver. Donc ça, c'est la première chose. L'année va se poursuivre avec un lancement qui est très attendu parce qu'il aurait déjà dû avoir lieu depuis plusieurs années. C'est celui du télescope spatial JWST, de la NASA et de l'ESA, qui est attendu par une fusée Ariane 5, probablement une des dernières, si ce n'est la dernière, pour le 31 octobre 2021. Mmh. Et avec ce télescope qu'on présente comme le successeur de Hubble, c'est pas tout à fait exact parce qu'il va observer l'univers dans une longueur d'onde de l'infrarouge légèrement différente que Hubble. Mm-hmm. Mais en tout cas, il fait 6,50 m de diamètre. Là aussi, ça va permettre d'observer surtout les étoiles en formation, les planètes en formation, les systèmes planétaires en formation, et puis étudier aussi la formation des étoiles et tout un tas de galaxies et même la cosmologie. Donc c'est vraiment un lancement qui va être suivi avec le cœur qui bat beaucoup parce que ça a coûté des milliards de dollars. Mmh. Il y a des retards énormes et on n'a pas le droit à l'erreur. Quoi.
Pas le droit à l'erreur, voilà. Ça sera donc en octobre 2021. Alors je ne sais pas, vous en rendrez compte évidemment dans Ciel et Espace. J'ai envie de m'arrêter dans ce numéro double, hein, de janvier-février de Ciel et Espace. De vous demander de me dessiner notre voie lactée, cher Philippe, parce que c'est ça, hein, le dossier de ce mois-ci.
Oui,
comment redessiner les contours de notre galaxie et pourquoi ça révèle une histoire plus agitée que prévu?
Oui, parce que la Voie lactée, déjà, c'est un élément très présent dans le ciel nocturne qui est visible de tous depuis la Terre. C'est l'élément le plus spectaculaire. On pourrait croire que cet ensemble d'étoiles auquel nous appartenons, auquel le Soleil appartient et le système solaire aussi, est plutôt bien connu puisqu'on est dedans. Mais justement, non, ça fait à peu près même pas un siècle qu'on a compris ce que c'était, et son exploration est difficile justement du fait que nous sommes à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Vous voyez les images de galaxies spirales qu'on voit prises par les télescopes. C'est très bien d'avoir une vue globale quand on est à l'extérieur, mais nous, on ne peut pas, on est à l'intérieur. Donc, on essaie de sonder depuis des décennies cette galaxie, de la comprendre. Et ces dernières années, on avait quand même un portrait à peu près fidèle, mais ces dernières années, on est vraiment rentré dans le détail avec l'exploration du centre de la Voie lactée, où se trouve un trou noir.
Le fameux trou noir.
Très massif, fameux trou noir Sagittarius à étoile. Voilà,
l'ogre assoupi, vous le décrivez comme ça dans Ciel et Espace. L'ogre assoupi, cet énorme trou noir au centre de notre galaxie.
Oui, c'est un ogre assoupi parce que le trou noir, on imagine un objet très dense qui aspire beaucoup de matière et qui en régurgite certaines dans certaines galaxies. Mais la Voie lactée est une vieille galaxie et il n'y a pas trop de gaz autour du trou noir. Donc, il a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ceci dit, il n'est pas totalement inactif. Là, pour preuve, le télescope constitué de plusieurs radiotélescopes autour de la Terre, qui est l'Event Horizon Telescope, n'a pas réussi à produire la photo, ce trou noir, justement parce qu'il varie en plusieurs heures. Donc, en quelque sorte, il arrête pas de bouger sur la photo. C'est comme, vous savez, les premières photos argentiques, on disait aux gens, ne bougeons plus, pour pas qu'il soit flou.
Donc, l'ogre de 4 millions de masses... Voilà, on va dire au trou noir de 4 millions de masses solaires d'arrêter de bouger. Bien sûr, il va nous obéir au doigt et à l'œil. Mais comme quoi, finalement, c'est quoi? C'est moins figé et c'est plus compliqué de révéler les contours et l'histoire de notre galaxie?
Oui, absolument, c'est compliqué, mais on fait des progrès ces derniers temps. On parle par exemple du satellite Gaïa, qui cartographie les étoiles autour du Soleil, mais alors quand on dit autour du Soleil, c'est quand même jusqu'à un peu plus de 300 années-lumière, et donc il y en a des centaines de milliers d'étoiles. Alors c'est un petit point dans la galaxie, mais ça donne un sondage à peu près exact, déjà, des mouvements généraux de ces étoiles autour de la galaxie, de sorte qu'on a plus aujourd'hui seulement une photo de ce qu'on peut voir, mais on a une photo dynamique. En fait, on a un film, on commence à avoir un film de la Voie lactée, et là, on est en train de découvrir que cette galaxie qui est ancienne, qui est plutôt tranquille, puisque le trou noir central ne semble pas engloutir grand-chose, elle a quand même eu une histoire qui est compliquée. On est en train même de découvrir sa chronologie, à quel moment, à quels épisodes elle a englouti d'autres galaxies, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on est en train d'écrire à la fois la géographie et l'histoire de la Voie lactée avec des moyens modernes. Le JWST dont je parlais tout à l'heure contribuera à cela, mais aussi les futurs très grands télescopes qui sont en construction sur Terre.
Dossier en tout cas à lire sur les contours de notre galaxie, son passé agité. Et puis on parlait de fin d'univers avec Mathieu Novak à l'instant. Bon, pour la Voie lactée, c'est une collision prévue, mais il y a le temps aussi avec la galaxie d'Andromède, c'est ça
Oui, mais c'est dans...
Philippe, on a le temps.
Voilà, c'est entre 3 et 4 milliards et demi d'années, donc on a le temps d'y penser.
On a le temps d'y penser. Alors, en attendant, justement, vous nous emmenez aussi sur la Lune, Philippe Hénarejos, dans Ciel et Espace. C'est l'astrophysicien qu'on aime bien aussi, Jean-Marc Bonnet-Bidot, qui nous apprend qu'il y a un télescope chinois qui fonctionne depuis 7 ans sur la Lune et qu'il y a un astronome chinois qui le pilote.
Oui, il dit dans l'article qu'il le pilote depuis son smartphone. Donc, c'est le premier homme sur Terre. Il s'appelle Wei Jingjiang. C'est lui qui a conçu pour la somme. Il avait une enveloppe de 50 000 euros. Il devait faire un instrument pour mettre sur la sonde Chang'e 3 qui fonctionne toujours, qui est sur la Lune et qui fonctionne toujours sur la Lune depuis le 14 décembre 2013, je crois, mes souvenirs sont exacts. Et donc, à bord de cette sonde, il y avait un emplacement de 12 kilos, donc c'était contraint, vous voyez, à la fois en finance et en poids. Et donc, il a réussi à installer un télescope. Alors, c'est de la taille d'un télescope d'amateur, comme celui que j'ai chez moi, 15 cm de diamètre. Mais ce télescope-là observe les étoiles dans l'ultraviolet. C'est un peu original, mais en fait, il y a une raison scientifique à ça, c'est qu'on peut mesurer beaucoup mieux la variabilité des étoiles. Et ce télescope, il fonctionne depuis la Lune, il le pilote depuis la Terre et il mène des observations. Alors évidemment, vu la taille du télescope, qui est quand même modeste, c'est pas forcément des choses qui vont révolutionner l'astrophysique, mais tous les projets de télescopes sur la Lune dont on parle depuis des années, etc., en fait, il y en a un qui est réalisé, on ne le savait pas vraiment, et Jean-Marc Bonnet-Bidot, qui est l'auteur de l'article, l'a rencontré, l'a interviewé, et il nous raconte les premières découvertes. Et il y en a une d'ailleurs qui est assez surprenante, mm-hmm. qui concerne l'eau sur la Lune, qui a été observée par des sondes. Et c'est un résultat assez contradictoire avec ceux qui avaient été annoncés.
Oui.
Et il a l'air assez fiable par rapport à toutes les autres mesures. Donc voilà, c'est assez étonnant. Il y a un observatoire sur la Lune.
Étonnant, hein. Donc pour lire l'interview de Wei Jianyan, l'homme qui pilote le télescope sur la Lune, c'est donc à lire dans Ciel et Espace, dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Il vous suffit, vous le savez, de nous demander par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. Avis aux amateurs de sensations intersidérales. Merci beaucoup, Philippe Hénarejos. À suivre en orbite le dossier Que cerveau et psycho consacre au cannabis thérapeutique. Cécile Essienne nous en dira plus sur cette recherche prometteuse, juste après avoir pris une petite bouchée du space cake confectionné par les escrocs et qu'on écoute tout de suite sur RFI en apesanteur, évidemment.
C'est sympa ce matin pour mon anniversaire, mes nouveaux copains m'ont offert un gâteau au goût très surprenant. Ils m'ont dit ton cadeau, tu as, il est dedans. J'ai mangé les trois quarts, j'ai pas trouvé le cadeau. Depuis je me sens bizarre, tout nu au bord de l'eau. Je fais des trucs de ouf. Je parle à des grenouilles qui me chatouillent. Je vois mon reflet dans l'eau. J'ai les yeux globuleux. Une tête d'iguane en pire. Que c'est que ce délire? Pris d'une violente fringale, je mords dans ma sandale. Elle a un goût de pied sale. C'est bien normal. Je veux compter ses poids, mais elle remue ses ailes, alors j'y arrive pas. Mais où vas-tu comme ça, mon ami l'escargot, qui remonte sur mon bras, de bas en haut. T'emportes sur ton dos ton petit Algéco. As-tu peur en vacances à Bave des flots?
Et oui, le space cake des escrocs, on n'y résiste pas sur RFI. Autour de la question, comment la science infusée se diffuse? Bonjour Cécile Estienne.
Bonjour Caroline, voilà une jolie façon de commencer l'année.
Ah, c'est ce que je me disais, car dans ce numéro de janvier de Cerveau et Psycho, vous explorez avec le professeur Bernard Calvino la piste du cannabis thérapeutique autorisé récemment, hein, depuis octobre 2020 par un décret en France. Le cannabis sera-t-il l'antidouleur du futur? Point d'interrogation, c'est ce que vous avez cherché à comprendre.
Oui, absolument. Nous avons effectivement demandé à Bernard Calvino, qui est professeur de neurophysiologie et un grand spécialiste de la douleur, de faire un petit point là-dessus, puisque depuis le 9 octobre dernier, l'usage du cannabis est autorisé en France. Enfin, pas l'usage récréatif, donc pas le space cake, mais
c'est
effectivement
ça, hein.
L'usage thérapeutique. Et donc cette année, voilà, on va pouvoir mener des expériences. D'autres pays ont déjà commencé sur à peu près 3000 patients atteints de maladies graves qui provoquent des douleurs insoutenables et qu'on n'arrive plus à traiter, mm-hmm. voilà, et notamment dans des cas d'épilepsie, de cancer, de sclérose en plaques ou ce qu'on appelle aussi les douleurs chroniques neuropathiques qu'on n'arrive pas à soigner.
Parce qu'on se rend compte, on s'est rendu compte que le cannabis thérapeutique, enfin des molécules du cannabis, avaient vraiment des effets antidouleurs, antalgiques.
Absolument. En fait, le cannabis est une plante qui, selon les variétés et l'environnement, voilà, est capable de sortir 421 composés chimiques, voilà, dont 61 cannabinoïdes. Et ce sont ces cannabinoïdes qui intéressent les chercheurs et les médecins. Et notamment trois d'entre eux, le THC, qu'on connaît assez bien, voilà, ou tétrahydrocannabinol, et puis aussi deux autres, le cannabidiol, CBD pour les intimes, voilà, et le cannabinol, qu'on appelle aussi CBN, voilà, et qui ont vraiment des effets thérapeutiques. Pour le THC, on le sait depuis à peu près 1965, quand on a réussi à l'isoler et le tester, voilà. Et donc, on sait qu'il a vraiment beaucoup d'activité sur nos propres cellules et notre organisme, puisqu'il a des effets psychotropes, donc il joue sur le fonctionnement de notre psychisme. Il a des propriétés antalgiques, c'est ce qu'on cherche beaucoup en ce moment, donc antidouleur. Mais ça a aussi des effets antispasmodiques. Il stimule l'appétit, il empêche les vomissements, il module les états émotionnels. Donc vous voyez, ça peut paraître très intéressant, même si n'oublions pas de rappeler que à forte dose, il détériore la mémoire, voilà, et perturbe aussi les mouvements. Donc il faut quand même faire absolument attention à ce qu'on fait.
Bien sûr, s'il a des effets, s'il a de tels effets, c'est qu'il en a effectivement dans tous les sens. Mais donc on parle vraiment de cannabis thérapeutique. Vous dites également que on peut le combiner avec d'autres substances qui elles aussi peuvent être utilisées comme des drogues, avec la morphine notamment, mais qui est indispensable dans certains cas.
Absolument. En fait, la question que Bernard Calvino explique par le menu, mais que je vais résumer là, voilà, c'est comment agissent ces cannabinoïdes, et c'est pour ça que ça peut être intéressant pour la morphine. Enfin, le cannabinoïde, comme beaucoup d'autres molécules, agissent en se fixant sur des récepteurs, vous savez, comme une clé sur une serrure, voilà, des récepteurs que nous produisons normalement dans notre organisme. Et il y en a deux types importants qu'on appelle CB1 et CB2. CB1, c'est essentiellement dans notre système nerveux, cerveau et moelle épinière, et CB2 sur les cellules du système immunitaire. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, ceux que ça intéresse iront voir dans le magazine comment ça fonctionne, mais par toute une sorte de cascade de réactions moléculaires, si vous voulez, le cannabinoïde, notamment le THC, en fait, inhibe l'influx nerveux. Et donc, inhibe notamment la propagation des signaux sur les fibres nociceptives, c'est-à-dire les fibres qui, justement, font remonter tous les signaux douloureux jusqu'au cerveau.
Voilà. Donc ça inhibe la douleur, la sensation de douleur, c'est ça, hein ?
Absolument. Et vous savez que nous produisons des cannabinoïdes naturels qu'on appelle endocannabinoïdes, puisque c'est les cannabinoïdes de l'intérieur, dont un qui s'appelle anandamide, ça vient du sanskrit ananda, qui veut dire béatitude, donc c'est tout un programme quand même, voilà, et un autre qui a un nom un petit peu moins glamour, il s'appelle le DAG, voilà, 2AG, pardon, et... en fait, ces molécules naturelles ont permis aux chercheurs de faire la cartographie, voilà, de tous les récepteurs où agissaient les cannabinoïdes, et c'est comme ça qu'on a compris comment ça marchait, voilà. Et donc, effectivement, on s'est aperçu que ça, il y avait ces récepteurs, notamment le CB1, celui du système nerveux, dans plusieurs parties du système qui expliquent ces effets psychotropes et aussi tous ces effets contre la douleur, notamment parce que on les trouve sur une partie de la moelle épinière où ça arrive toutes les terminaisons de ces fibres nociceptives, et c'est ça qui intéresse les chercheurs.
Et d'ailleurs, il y a des graphiques. Allez-y, mais il y a vraiment des dessins graphiques. On comprend très c'est bien ce que vous êtes en train de dire, comprendre. Très précis. Hein, voilà, absolument, dans le cerveau psycho. Voilà.
Et on s'est aperçu que ces récepteurs, donc les CB1, étaient répartis exactement de la même façon dans notre organisme, aux mêmes endroits, si vous voulez, que les récepteurs des récepteurs opioïdes, parce que nous avons un autre système de contrôle de la douleur dans notre organisme, qui est réceptif aux opioïdes, aux opiacés, pardon. Mais du coup, évidemment, c'est aussi celui qui parfois favorise l'addiction, malheureusement, aux opiacés. Voilà. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que les deux systèmes se renforcent. C'est un peu le double effet qui se coule, si vous voulez. Voilà. Les deux inhibent encore plus l'influx nerveux et le retour sur ces fibres nociceptives, notamment.
C'est ça.
Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de donner des cannabinoïdes en petites doses, voilà, donc à peu près sans effet secondaire, et ça pourrait amplifier, enfin cela, ça, on l'a déjà montré chez les animaux et on commence à le montrer chez l'homme, cela en fait amplifie les effets antalgiques de la morphine. Donc ça serait assez formidable parce que ça permet justement de lutter contre la douleur sans, vous savez, rentrer dans cette escalade des opioïdes qui fait que au bout d'un certain moment, il vous faut toujours plus de morphine pour le même effet, ce qui explique aussi l'addiction pour certaines personnes, mais ce qui empêche effectivement de traiter les douleurs fortes chez les gens malades. Et c'est ça qu'on cherche à améliorer justement en combinant les deux.
Le cannabis serait-il l'antidouleur du futur? Point d'interrogation ou pas d'ailleurs. En tout cas, l'article est à lire vraiment dans ce numéro de Cerveau et Psycho, parce qu'on se rend compte qu'au fond, notre cerveau est câblé ou peut produire lui-même ce genre de molécules, et on a donc intérêt à les ingérer en tant qu'antidouleur, mais sous surveillance médicale. Alors, à part cette recherche sur le cannabis thérapeutique dans Cerveau et Psycho, dont on va vous parler aussi, bien sûr, cette année autour de la question sur RFI, qu'est-ce que vous attendez d'autre, si j'ose dire, Cécile Estienne, ou qu'est-ce que vous attendez pour cette année 2021, scientifiquement parlant?
Plein de choses, hein, mais comme tout le monde, quand même, de nouveaux vaccins, on a tellement envie de sortir de cette crise. Alors, non pas que les vaccins actuels déjà autorisés soient mauvais, pas du tout, mais plus on en aura, mieux ça sera, probablement, parce que peut-être les indications seront pas les mêmes pour tout le monde.
Et puis, parce qu'il y en aura pour tout le monde, voilà. Sur toute la planète aussi. Hein, voilà.
Exactement. Et puis, si on avait aussi des vaccins dont l'emploi, dont l'usage serait plus facile, qu'on n'aurait pas besoin de conserver une telle température, ou qui serait efficace au bout d'une seule injection, par exemple. Et voilà. Mais il y a des recherches là-dessus, et donc vous savez qu'il y a beaucoup d'autres candidats vaccins là qui frappent à la porte, et j'espère bien qu'effectivement ils vont bientôt être autorisés et montrer leur efficacité. Et puis une autre chose qui est beaucoup plus prospective, c'est que tant qu'à faire, tout le monde a envie de sortir de cette crise. Je pense qu'on aurait mieux aimé ne pas la vivre, mais en même temps, c'est une formidable expérience humaine absolument inédite. Ce n'est évidemment pas la première pandémie que nous subissons. On a eu même connu bien pire, mais je pense que c'est la première fois qu'on y réagit comme ça. Et ça sera intéressant de voir. Il y a beaucoup d'études en ce moment qui suivent des cohortes de gens pour voir comment ils arrivent à gérer tout ça, notamment comment on pourrait peut-être trouver de meilleures astuces pour gérer l'incertitude, puisque c'est ça qu'on voit, qu'on a beaucoup de mal à gérer aujourd'hui.
Ouais, piste à suivre là-dessus, de réflexion sur la meilleure manière de traverser tout ce qui nous arrive et d'en faire quelque chose. Merci Cécile Estienne. Autour de la question, comment la science va-t-elle infuser et se diffuser en 2021? Après Cerveau et Psycho, on continue de s'interroger avec Thomas Cavaillé-Foll de Science et Vie sur toutes les bactéries, des milliards de milliards avec lesquelles nous cohabitons et qui font de nous ce que nous sommes, des êtres biologiques qui aiment la musique, surtout celle d'Air Biological sur RFI.
To
le groupe Air Biological sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, bonjour Thomas Cavaillé-Foll.
Bonjour Caroline.
Ravi de vous accueillir en vrai, en chair et en os et en bactéries aussi hein, dans ce studio. Ah oui. Car comme chacun d'entre nous, vous n'êtes pas tout seul dans votre corps. Nous cohabitons tous avec des milliards de bactéries sur notre peau, dans nos intestins, dans nos poumons. Et sauf en période pandémique, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Mais ça nous influence, nos émotions, nos relations sociales. Les bactéries font de nous ce que nous sommes. C'est la une et le dossier de Science et Vie. Pour mieux comprendre toutes les implications de cette révolution microbiotique, je propose d'abord un petit extrait sonore du film de Cécile Dangean, Le ventre et notre deuxième cerveau, avec le professeur Steve Collins de l'université McMaster d'Hamilton au Canada et l'immunologiste et conteur Jean-Claude Amezen.
Je suis un être humain et mes cellules sont issues de l'œuf, résultant de la fécondation de l'ovule de ma mère par le spermatozoïde de mon père. Et toutes ces cellules qui ont proliféré, ça a fabriqué mon corps. Et moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je croyais que c'était ça, moi. Et puis j'ai découvert que non. Qu'en fait, ça, c'est un petit bout de moi. Et qu'il y a un énorme bout qui est constitué de bactéries, de microscopiques. Et qu'en fait, je suis un écosystème.
We are more... Nous sommes davantage bactériens que nous ne sommes humains. Nous avons bien plus de cellules bactériennes dans notre corps et sur notre corps que nous n'avons de cellules humaines. Nous avons plus d'ADN bactérien que nous n'avons d'ADN humain. On pourrait dire que nous sommes un véhicule à bactéries.
Nous, êtres humains, sommes un véhicule à bactéries, selon le professeur Steve Collins. Et toutes ces bactéries influencent notre comportement, et pas qu'un peu. Thomas Cavaillé-Foll, c'est la une et le dossier de Science et Vie ce mois-ci.
Pas qu'un peu, effectivement. À chaque fois que des études sortent, elles nous montrent à quel point les bactéries nous influencent. Par exemple, saviez-vous que vos goûts, vos préférences alimentaires étaient influencées par des bactéries? Ça a été montré chez des souris ou chez des drosophiles. Si on changeait le microbiote de ces animaux, ils
donc
allaient préférer...
les bactéries intestinales.
Les bactéries intestinales, oui, tout à fait. Ils allaient préférer tel aliment ou tel autre. Et pas n'importe quel aliment, mais l'aliment qui allait venir renforcer le groupe bactérien qui était dominant dans leur microbiote.
Ce sont les bactéries qui nous donnent notre goût.
Ouais, exactement.
Qui nous font manger ce qu'elles aiment manger.
Ouais, exactement, qu'elles aiment manger, c'est tout ça, à fait. Mmh. Et alors, ça va bien plus loin que ça. C'est assez bouleversant. Les bactéries aussi commanderaient nos émotions. Par exemple, les souris de laboratoire, on arrive à les élever sans microbiote. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de bactéries, certaines souris. Mm-hmm. Et ces souris-là, elles sont moins prudentes que les souris avec microbiote. C'est-à-dire qu'elles sont un peu plus téméraires. Comme si avoir un microbiote donnait une sorte de sens de la survie. Comme si les microbes...
Plus qu'on est nombreux à l'intérieur de nous,
ouais,
et plus on fait attention à notre survie.
Oui, ils font attention à la survie. Le stress, qui est quelque chose de la survie, est aussi généré par les bactéries. C'est pas fini. Par exemple, les relations sociales même sont apparemment un peu gouvernées par les bactéries. Les souris, pareil, sans microbiote, se montrent moins sociales que les autres. Et chez les drosophiles, on se rend compte qu'en changeant leur microbiote...
Chez les mouches,
oui, excusez-moi, ce sont des mouches. On arrive à changer leur préférence pour le partenaire sexuel en changeant leur microbiote.
Ah, carrément ! Chez les mouches, c'est comme ça que ça marche. Donc peut-être que chez nous, ça marche un peu aussi.
Eh bien, en fait, un baiser n'est qu'un échange de microbiote. On échange son microbiote pour pouvoir être...
J'y avais pas pensé, dis donc, mais oui.
Et même
on échange nos bactéries.
On échange nos bactéries. Et au sein d'un même groupe, pourquoi on a peur de quelqu'un qui ne fait pas partie du groupe? Mm-hmm. C'est qu'il n'a pas aussi... Peut-être qu'il n'a pas encore les mêmes bactéries.
C'est-à-dire que là, j'en suis bien contente, en face de moi, Thomas Cavaillé-Foll, c'est vous qui me parlez, mais aussi toutes vos bactéries, de même pour moi,
ça. Hein. Et si on se rapproche un peu, on finirait par les partager, peut-être.
C'est pour ça que la distanciation sociale est de rigueur. Mais l'intérêt, c'est donc... De mieux comprendre, de mieux connaître tous ces multiples petits microbes, êtres qui vivent avec nous, de nous, pour nous, enfin qui nous composent. Quoi.
En fait, l'intérêt là, il est surtout...
C'est énorme.
C'est un changement de paradigme. Comme le disait très bien le monsieur dont j'ai oublié le nom dans cette
Jean-Claude Amezen
ou le professeur
Steve Collins.
C'est l'organisme lui-même qui est en train de devenir complètement dépassé. On est à la recherche de nouveaux mots mots pour définir l'organisme, parce que effectivement l'individu n'a plus de sens, l'esprit n'a plus de sens. Nous ne sommes pas un organisme, nous sommes une communauté. Alors il y a le terme holobionte qui est en train de sortir, qui est justement pour définir l'organisme ainsi que toutes les bactéries, tous les virus, tous les champignons qui nous habitent. Il y a le terme de superorganisme. Ne serions-nous pas aussi un super organisme, exactement. En fait, c'est ça, c'est cette notion d'individu, elle est en train de complètement changer à l'aune de toutes ces découvertes là sur la façon dont les bactéries nous habitent. Et en fait, nous sommes une constante négociation entre différents types de vivants. Et ça, c'est super important.
Et parce... donc, différents types de virus aussi, hein, qui ont d'ailleurs en passant fait ce que nous sommes, puisque notre placenta, on le tient d'un ancien virus qu'on a attrapé.
Bien sûr, placenta.
De mammifères. Hein. Mais donc, effectivement, c'est quoi? C'est une histoire d'équilibre entre...
C'est une histoire d'équilibre, de réseau.
De réseau.
Toute la vie, tout le vivant est en fait du réseau. Et c'est cette réalité qu'on est en train de découvrir et de subir aussi, comme on le voit aujourd'hui, virus qui mute et est en train de bouleverser tout le vivant sur Terre, hein, parce que ça a des répercussions, bien sûr, sur notre espèce à nous, mais sur d'autres aussi. Et donc,
c'est complètement fou, parce que scientifiquement, ça change tout. Pour des thérapies, ça peut tout changer aussi.
Exactement.
Mais philosophiquement,
c'est le plus fort pour moi.
C'est le plus fort, hein, franchement.
Plus fort pour moi.
Et moi, je trouve ça assez joli, puisque vous l'avez dit, ça peut être pour le pire, mais ça peut être pour le meilleur, que 2021, ça soit et l'année du vaccin, et l'année du lien... avec tous les autres qui nous habitent et chez qui on habite. Enfin, c'est une autre vision du monde et de nous-mêmes ça implique. Hein.
Et de ce que ça peut apporter aussi, vous l'avez dit, pour l'instant, on avance pas à pas dans ce... C'est vraiment un tout nouveau monde qu'on découvre. Mais par exemple, le contrôle de nos bactéries, ça a déjà un peu commencé avec les probiotiques. Vous savez, quand on prend des antibiotiques, généralement, on prend des probiotiques. On a encore un peu du mal à contrôler un peu nos bactéries, communautés, nos populations de microbes qui nous habitent, mais il y a aussi les transplants fécaux qui marchent ces temps-ci très bien.
Alors on va peut-être pas rentrer dans les détails, parce que c'est pas ragoûtant, mais pourtant ça marche, échanger notre microbiote intestinal en introduisant toutes les autres bactéries qu'il y a dans d'autres intestins et qui font du bien.
Il y a même des chercheurs qui sont en train d'imaginer qu'on pourrait stocker notre propre microbiote quand on est jeune, en bonne santé, quand il est top, et pour pouvoir se le réimplanter plus tard quand on a des problèmes.
Science-fiction, dossier vraiment à lire dans Science et Vie de ce mois de janvier. Il nous reste quelques petites minutes pour d'autres... qu'est-ce que vous attendez pour 2021, scientifiquement parlant, Thomas Cavalier-Foll, à part ce fantastique champ de recherche là, vraiment autour de nous et de nos bactéries?
Alors moi, vous savez que je suis un peu passionné par la paléo.
Mais je sais, paléo-archéologie.
Là, il y a tout... Il y a des super recherches qui sont en train de se faire, je crois, en Europe, sur ce moment tangent où Sapiens est arrivé et a rencontré Néandertal. Et peut-être sur l'échange de cultures et de techniques qui s'est passé. Je ne sais pas s'il y a eu cette incroyable étude d'Antoine Balzo du Muséum d'Histoire Naturelle.
Bonne pioche, parce qu'on va le recevoir bientôt, Antoine Balzo, sur les Néandertaliens qui enterrent leur mort.
Exactement. Et c'est vraiment assez incroyable, parce que c'est un moment particulier. Est-ce qu'il y a eu échange de culture, de techniques? Et avec toutes les nouvelles techniques de datation, on arrive à un peu en savoir plus. Donc ça, je suis assez excité là-dessus. Et il y a aussi une nouvelle mâchoire qui a été découverte dans la grotte Rising Star en Afrique du Sud, là où a été découvert Homo naledi. Et là, c'est une nouvelle mâchoire. Elle n'appartient pas à Australopithèque ni à Homo naledi. Et il me tarde de savoir ce que c'est. Peut-être une nouvelle espèce humaine.
Des nouvelles de la préhistoire, une nouvelle espèce humaine. On n'a pas fini d'en parler. Et on en parlera avec Antoine Balzo et aussi avec Isabelle Crèvecœur, qui travaille sur les contemporains africains des Néandertaliens, les hommes modernes d'Afrique dont on ne sait pas grand-chose. Ça sera à suivre. Merci infiniment, Thomas Cavalier-Foll. Autour de la question, c'est presque fini pour aujourd'hui. Vous le savez, tous les magazines dont nous avons parlé, Science et Vie, Science et Avenir, Cerveau et Psycho, et Ciel et Espace, On en a quelques-uns, quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditeurs, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. Merci à Jérémy Besset à la réalisation aujourd'hui de l'autre côté de la vitre, avec Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Nous vous souhaitons de rester curieux tout au long de cette année 2021. Prenez soin de vous, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.